Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré dans une entreprise de service avec Cécile Couettard, Lead Service Designer à la MAIF. Après nous avoir présenté son parcours de designer très diversifié, Cécile nous explique que le design intégré à la MAIF apporte un regard global et transverse dans cette entreprise. Cette équipe de designers de service entrée par le pôle expérience à la MAIF est depuis mars 2022 intégrée au service design et marketing stratégie. Elle est le lien entre les différents points de contact des utilisateurs qui sont les conseillers MAIF, mais également les clients MAIF. Le client doit, à travers un site ou une appli, avoir une vision claire de l'offre et des services qui correspondent à ses besoins, et le conseiller doit être rassurant et savoir accompagner le sociétaire, en particulier dans le cadre d'un sinistre. La prise en compte des différents points de contact des usages permet à la marque d'avoir une cohérence globale de son image et d'affirmer sa singularité. Le designer de service à la MAIF est un facilitateur en interne. Il travaille de manière très transversale avec les différents services et collabore étroitement avec les autres professionnels qui vont pouvoir mettre en œuvre les axes de développement choisis. Il met donc en relation différentes personnes sur des bases communes afin de les faire travailler ensemble. Nous finissons notre entretien sur deux questions, celle de la visibilité du design en interne et la vision de Cécile sur l'évolution des métiers du design. Je vous laisse découvrir notre entretien. Si vous aimez notre podcast, si vous voulez lui donner de la visibilité, rien de plus simple. Laissez un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et pensez à vous abonner sur notre site internet acdi-asso.fr. Merci à vous.
Bonjour Cécile, merci d'accepter de participer à notre podcast. Et pour commencer, peux-tu nous présenter ton parcours, s'il te plaît ?
Alors bonjour Annabelle, je suis ravie, merci de m'avoir invitée à ce podcast. Alors mon parcours, j'ai commencé, j'ai fait l'ENSI les ateliers après avoir fait un BTS de graphisme et j'ai commencé à travailler en 2003 chez Gulliver Design. Donc j'étais rentrée dans le monde du design par le biais du graphisme, parce que ce qui m'importait, c'était de travailler sur la structuration et la hiérarchisation de l'information. Et en faisant l'ENSI, j'ai pu apprendre à utiliser des outils pour continuer à donner du sens et pouvoir construire des outils de lecture. Et en sortant de l'école, je suis allée travailler chez Gulliver qui faisait de la muséographie. Et donc là, c'était un domaine dans lequel on doit d'abord comprendre la thématique et le sujet sur lequel on travaille et pour lequel on va devoir transmettre des éléments, faire de la pédagogie, de la vulgarisation et identifier et puis reformuler la problématique de base et puis travailler pour des publics qui sont différents. Et donc là, dans ce domaine de la muséographie, je trouvais intéressant de pouvoir travailler tout ce que j'avais appris à l'ENSI sur le design et ce avec quoi j'arrivais au niveau du graphisme et de la structuration de l'information. Ensuite, j'ai travaillé chez PSA sur les intérieurs de véhicules côté Peugeot dans le service qui s'appelait à l'époque Couleurs et Matières sur donc les habitacles. Et alors là, c'était un peu des mini-scénographies puisque quand on rentrait dans un véhicule, on construit quelque chose qui est lié à la sensation de conduite ou de confort qu'on va vouloir faire passer à travers un modèle qui est plutôt sport, plutôt haut de gamme, ou alors sur des co-branding avec une autre marque pour laquelle il faut comprendre quelles sont les clés de marque qui va être partenaire de Peugeot sur un véhicule et puis trouver comment, avec des matériaux et des couleurs, on peut rendre ces codes de marque. Et puis, dans la dimension matériaux, il y avait aussi tout ce qui était lié au développement de ces matériaux-là. Donc là, il fallait pouvoir, avec les ingénieurs qui fabriquent ces peintures et ces matériaux, pouvoir traduire des choses qui étaient de l'ordre de la sensation en matière hyper tangible. Voilà, donc là, je suis restée un an et demi chez GPSA. Et ensuite, je me suis mise en indépendant et j'ai travaillé sur des territoires de marque en accompagnant des entreprises qui se lançaient et créaient des produits, et donc avec des interventions qui étaient très variées, qui allaient depuis la conception de l'identité de marque jusqu'à la conception des produits. Et puis progressivement, je suis rentrée dans ce qui s'appelait à l'époque le design global ou 360, en proposant d'accompagner les clients sur le développement d'entreprise et en travaillant autour du produit, sur tout ce qu'il pouvait y avoir autour, aussi bien dans la dimension fabrication que logistique, que distribution, que communication. Donc là, au début, j'étais indépendante et puis ensuite, avec mon associé Karl Jourdain, on a créé le studio Attention Fragile. Et on a accompagné comme ça pendant une dizaine d'années des entreprises. Et puis, parallèlement à ça, on a créé une marque de papeterie récréative pour laquelle tout ce qu'on avait fait pour nos clients jusque-là, on le mettait en place, nous, pour notre propre marque, et en allant jusqu'à la diffusion, puisque tout ce qui était lié à la distribution, on a dû le porter à travers des salons comme Maison et les Objets ou Spiel und Messe en Allemagne. Et donc, on avait des points de diffusion des objets qu'on fabriquait qui étaient des calendriers de l'Avent en carton réutilisable qui étaient fabriqués en France. Et donc, on avait 220 points de distribution en Europe. Et donc là, bah, c'était une autre façon d'aborder tout ce qu'on proposait jusque-là à nos clients. Et on a fermé notre structure. Parce que la marque, la maison des calendriers, du calendrier n'était pas un projet pérenne. On a fermé la structure et moi, je suis revenue vers le salariat et je suis rentrée chez Accence, qui était une agence à la fois d'accompagnement digital et d'expérience utilisateur, qui proposait, donc ils ont un côté agence et puis ils proposent aussi des designers à d'autres entreprises. Et donc là, je suis rentrée dans l'univers des assurances à la Massif. Et bah, tout d'un coup, je travaillais dans un univers dans lequel j'avais la possibilité de poser un regard qui était à la fois global et transverse sur un écosystème qui était hyper riche, mais qui ne proposait que des choses qui étaient du service et donc intangibles et qui étaient un peu à l'opposé de tout ce que j'avais fait jusque-là, puisque tout se traduisait dans une matérialité qui était soit de l'espace, soit des produits physiques. Voilà. Et donc, je suis rentrée dans officiellement le monde du design de service par le biais d'Accence. Et il y a 2 ans, j'ai intégré les équipes de la Maïf au sein du pôle expérience, qui était, donc il y a 2 ans, l'équipe dans laquelle les designers de service se trouvaient.
Voilà. Okay. Et du coup, maintenant que tu es à la Maïf, tu vas pouvoir nous éclairer sur un point. Que vient faire un service design chez un assureur?
Alors, la Maïf avait des designers d'expérience, donc des designers UX, avant d'avoir des designers de service, parce que le design, il a fait son entrée à la Maïf, comme dans beaucoup de structures qui proposent du service, en fait, par l'ergonomie liée à l'écran et à l'interface. Et dans lequel se pose la question de l'usage, parce que quand on a un site internet ou une application, il faut se poser la question de comment l'utilisateur va faire tout seul devant son écran pour trouver des réponses. Et puis, parallèlement à ça, on a aussi un autre utilisateur qui est le conseiller, qui est l'interlocuteur que le client a avec une marque, et qui, lui, tout seul devant son écran, va devoir trouver des réponses à donner au sociétaire. Donc, le conseiller, lui, doit croiser plein de données entre le sociétaire, le contrat, les règles, le contexte de l'accident pour pouvoir donner une réponse qui sera la bonne et qui est, là, il est la voix de la marque, en fait, quand il va répondre. Et donc, ces actions-là, ça nécessite de se poser des questions qui dépassent l'interface, puisque l'interface, elle n'est que le porteur et le reflet de tout ce qui va devoir être mis en place derrière pour que le service puisse exister. Et donc, ça a commencé par la création d'un pôle expérience. Alors, il y avait parallèlement un pôle expérience et un pôle d'innovation. Le pôle expérience, lui, travaillait sur le lien entre ce qui pouvait se passer à ces 2 points de contact que sont un conseiller au téléphone et la personne tout seule devant son appli ou son site internet. Et du coup, en fait, le designer de service, il va être là pour travailler sur la cohérence entre ce qui se passe dans tous les points de contact avec la marque. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivée la notion de design de service à la Maïf, parce que c'était nécessaire de pouvoir faire un lien aussi entre les produits qui doivent être créés par rapport à une compréhension des utilisateurs et du contexte d'usage. Et puis, la façon dont la Maïf va rendre ce service que le client a, enfin, auquel le client a souscrit. Et donc, il y a d'un côté à la fois la question qui est liée au produit, à quoi il sert, comment on s'en sert. Et puis, étant Maïf, comment on parle de ce produit-là, comment on écoute les besoins des utilisateurs pour pouvoir faire évoluer le produit. Parce que comme on est Maïf, il y a une singularité de la marque, il y a un positionnement qui fait qu'on ne va pas répondre de la même manière que si on était un autre assureur, où on ne va pas proposer les choses de la même manière. Et puis après, il y a la question de comment on l'expose, quels sont les outils qu'on met à disposition des sociétaires pour qu'ils puissent faire une déclaration de sinistre, par exemple, ou d'accident, et comment on le vend, c'est-à-dire que comment on fait pour que les conseillers puissent proposer ce service-là, ou alors comment on fait pour que l'internaute tout seul puisse répondre aux questions qui vont faire qu'il va avoir un bon tarif et puis une bonne couverture en cas d'accident. Et donc, toutes ces questions-là, elles sont à aborder avec différentes personnes au sein de l'entreprise pour comprendre comment faire pour orchestrer tout ce qui se passe dans cette multiplicité de points de contact et faire que, avec tous ces types d'utilisateurs différents, tous ces contextes, comment articuler tout ça et puis faire que entre la promesse qu'on donne quand on dit aux gens oui, on va vous assurer et puis ce qui se passe vraiment le jour où ils ont besoin qu'on vienne les chercher au bord de la route, comment on fait pour que ça existe réellement et que ça ne soit pas trop compliqué à mettre en œuvre. Ou en tout cas, que ça ne soit pas ressenti comme étant compliqué pour celui qui le vit.
Et du coup, comment ça s'organise et avec qui tu travailles au quotidien au niveau du service design ?
Alors, la Maïf, les designers de service sont du côté de la direction du marketing et de l'offre. Et puis, il y a d'autres directions qui sont en responsabilité de la distribution, de l'informatique, de tout ce qui est lié au RH, la formation, tout ça. Et donc, en fait, on va travailler avec un peu tout le monde. En tout cas, on essaye de faire un maximum de liens. Moi, au quotidien, ce que je fais le plus, c'est de mettre en relation des gens et de construire des bases de connaissances communes sur lesquelles on va pouvoir travailler ensemble. Donc, selon les sujets et selon les moments aussi d'activation de ces sujets-là, on va pouvoir aller travailler avec des gens, enfin des métiers, donc les métiers de l'assurance qui sont au cœur de la conception technique et de la compréhension technique de l'assurance. On va travailler avec les personnes qui vont créer les programmes relationnels, la communication, donc tout ce qui est l'image qu'on peut avoir du marketing pour pouvoir vendre un produit. On va travailler avec les personnes qui sont au sinistre, avec les conseillers. C'est très important de pouvoir s'appuyer sur les conseillers pour savoir, en fait, quand ils ont des sociétaires au téléphone, quelles sont les questions que les gens posent, quels sont les points de difficulté éventuels, quels sont les outils qui sont nécessaires pour pouvoir répondre à la question, quel type de données ils vont avoir besoin d'avoir sous la main pour pouvoir répondre aux questions des sociétaires. Les gestionnaires, savoir quelles sont les règles de gestion, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment on peut articuler les choses. Et puis ensuite, côté informatique, tous les gens qui vont faire que tout ça existe, parce que tout ça est porté par de la donnée en fait, qui va être organisée, traitée. Des actuaires aussi, pour comprendre quelles sont les règles. Des personnes qui sont au service communication. En fait, c'est toute l'entreprise avec laquelle on va travailler pour pouvoir avoir des interlocuteurs qui sont sachants sur tous les domaines qu'il va falloir articuler pour faire un projet.
Donc, ça fait des équipes très transversales, finalement.
Oui, parce qu'en fait, c'est... Si les choses étaient fabriquées séparément, eh bien, le jour de la mise en œuvre, en fait, c'est nécessaire d'avoir interrogé tous les acteurs. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des blueprints, donc, qui sont une espèce de cartographie des services dans lesquels on essaie de poser, alors que ce soit sur des choses existantes ou des visions cibles, comment les acteurs, les outils, les actions doivent interagir pour pouvoir être sûr qu'à l'activation de ce qu'on est en train de créer, les choses nécessaires pour que ça fonctionne bien aient vraiment été prévues en amont et soient vraiment là.
Et toi, tu ne travailles pas forcément à la mise en œuvre. C'est-à-dire, toi, après, du coup, tu vas travailler avec d'autres designers, soit des designers d'interaction, d'interface, soit tu vas travailler avec le service com, par exemple.
La mise en œuvre, on doit l'anticiper, c'est-à-dire qu'entre le moment où on va avoir une étape d'idéation, où on va imaginer des choses, et le jour où ça existe réellement, il y a forcément une étape de conception de la réalité, en fait. Soit parce qu'il va falloir s'appuyer sur un existant, et donc comment faire pour que l'histoire qu'on raconte fonctionne avec cet existant-là, soit parce qu'il va falloir créer des choses. Alors, quand on dit créer des choses, ça peut être créer des éléments de communication, créer des parcours digitaux, créer des connexions entre des serveurs pour faire que l'information que j'ai recueillie ici va être bien donnée à la bonne personne pour qu'ensuite on puisse engager des choses. Et créer aussi la façon dont on va parler de ces produits-là. Et donc, il y a d'autres designers à d'autres endroits, c'est-à-dire que les designers de service travaillent avec les designers d'interface qui sont sur MyFFR et l'application, et travaillent aussi avec les designers des outils des collaborateurs. Parce que après, c'est eux qui sont aussi experts de ce point de contact, en fait. Le designer de service, il n'est pas expert d'un point de contact. En fait, il va travailler sur un produit et puis après, pour que ça existe, il va travailler avec ces autres types de designers-là qui, eux, sont experts d'un point de contact.
Ok. On a bien compris, du coup, l'intérêt qu'a trouvé la Maïf à intégrer le design pour rendre plus lisible et plus fluide le parcours, finalement, et de ses collaborateurs et de ses clients. Et du coup, aujourd'hui, comment, en interne, vous arrivez à donner de la visibilité au design, justement? Comment vous êtes perçu et comment vous donnez de la visibilité à ce que vous faites et à votre travail?
Alors, du côté des designers d'interface, comme on est sur des choses qui sont très liées à du développement informatique et de l'agilité, il y a tout ce qui est les démos, enfin des moments, en fait, qui sont appelés cérémonies en agilité, qui sont des moments dans lesquels on va partager tout ce qui se passe. Côté design de service, c'est pas encore quelque chose qui est aussi développé. Pour autant, on a des présentations de sujets au reste de l'entreprise dans lesquelles on va montrer à des étapes clés, par exemple au moment d'idéation, ce sur quoi on travaille, ce à quoi on est arrivé. On va avoir des partages de toute la recherche utilisateur qui a été faite aux équipes avec lesquelles on travaille, pour pouvoir permettre aussi à chacun de s'appuyer sur des travaux qui ont déjà été faits et à la fois donner envie et la possibilité de travailler avec des designers et de diffuser la méthode de design. Et puis, on se rend compte progressivement que les gens viennent nous chercher aussi, parce que notamment tout l'exercice qui est fait autour de la réalisation des blueprints est très parlante, en fait, parce que chacun comprend ce à quoi il participe face à un blueprint, mais n'a pas forcément la connaissance de ce que fait la personne qui est juste avant lui ou juste après lui dans un enchaînement d'actions. Et donc, le fait de participer à un projet dans lequel on a un blueprint qui a été réalisé et dans lequel des parcours sont cartographiés, ça donne vraiment des clés de compréhension de ce qu'on construit. Et donc, le designer est identifié comme une personne qui permet de ramener de la simplicité et de la fluidité dans des process et des parcours qui sont complexes.
Donc, vous êtes perçu vraiment comme des facilitateurs, finalement.
Oui, c'est ce vers quoi ça va de plus en plus. Alors, on pose beaucoup de questions. Ça aussi, c'est une chose qui est parfois pas bloquante, mais comme on va creuser la réalité, Le fait de faire remonter les irritants, parfois, c'est aussi difficile parce qu'on commence par questionner l'existant et faire remonter les irritants. Et puis ensuite, le fait d'avoir tout ce travail de mise à plat est perçu comme pouvant améliorer la lisibilité et la compréhension et la maîtrise du contexte pour tous, en fait.
Et j'ai une petite dernière question pour toi. Aujourd'hui, on voit que les métiers du design évoluent beaucoup. Quelle est ta vision à toi du design aujourd'hui et dans les années à venir ?
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de segmentations qui n'existaient pas avant qui sont faites, mais parce que les formes d'incarnation du design sont multiples et de plus en plus variées. Et que donc, ça nécessite d'avoir des gens qui savent fabriquer, in fine, des choses très différentes et que tout ça nécessite d'avoir des expertises différentes parce qu'on n'aborde pas, selon si on fait du graphisme, un objet, une interface, un jeu, selon ce qu'on fait, en fait, il y a besoin d'avoir des savoir-faire qui sont différents parce que c'est quand même, ça reste pour moi un métier, une expertise qui est de l'ordre du technique. Mais par contre, sur la base commune de tous ces métiers-là, qui est, à mon sens, la compréhension du contexte et de ce pourquoi on est en train de travailler, quels sont les tenants et les aboutissants, j'arrive pas à savoir si dans les écoles, les choses sont abordées. Si toute cette dimension compréhension de l'utilisateur, recherche utilisateur est abordée de la même manière. Et en même temps, je me dis que c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure que les besoins évoluent et qui remontent dans les écoles ou qui font que les formations évoluent aussi. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles de design dans lesquelles on propose un double cursus avec une dimension qui jusque-là est abordée plus par le marketing et qui permettent aux designers de pouvoir être aussi promoteurs du design, chose que moi, je n'ai pas apprise quand j'étais étudiante et qui est de plus en plus nécessaire, je pense, pour pouvoir faire avancer la pratique dans les entreprises. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à discuter avec un ingénieur et aujourd'hui, c'est vraiment très nécessaire de pouvoir avoir des éléments qui permettent d'évoluer dans des milieux dans lesquels toute la dimension stratégique et marketing va être extrêmement importante pour que le design puisse participer à l'évolution de l'entreprise.
Très bien, merci. C'était très clair. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, pour ton témoignage sur ton métier, tes pratiques et le design intégré à la Maïf.
Merci beaucoup, Annabelle.